et d'un autre côté la littérature. Pour la littérature de langue allemande, ben l'Alsace est au top. C'est-à-dire que le premier poème rimé au IXe siècle, ben, il vient d'Alsace, il vient de l'abbaye de Wissembourg. Nos troubadours sont parmi les plus grands du monde germanophone. Dès la fin du XIIIe siècle, les villes et un nombre de plus en plus important de nobles rédigent leurs actes administratifs en allemand. Pour l'allemand de l'époque, c'est pas l'allemand moderne d'aujourd'hui. Nous avons Sébastien Brandt, à la fin du XVe siècle, qui a écrit Das Narrenschiff, donc la nef des fous. C'était le best-seller du XVIe siècle. Le premier roman populaire, a été publié et imprimé au milieu du XVIe siècle. Nous avons la révolution chez nous, ne s'est pas faite en français, elle s'est faite en allemand. Il y avait Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, donc liberté, égalité, fraternité. Et d'un autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que la littérature dialectale a commencé à se développer véritablement au XIXe siècle. Donc rien ne s'oppose, rien n'est antinomique dans cette histoire-là. Et demander des classes bilingues, avoir des classes bilingues, c'est renouer avec cette histoire linguistique. C'est notre langue historique que nous défendons.
Frans Schaffner heeft ons heel even uitgelegd hoe belangrijk de Elzas eigenlijk wel was in de geschiedenis van het Duits en vice versa natuurlijk. Hij heeft er ons op gewezen dat vanaf de derde eeuw al de streek die nu Elzas heet, eigenlijk een streek was waar er Germaanse talen werden gesproken. Wat de literatuur van het Duitse gebied aangaat, het eerste gedicht in het Duits is geschreven in de Elzas. Rond de 13e eeuw is het zo dat zowel de steden als de edellieden zich in het Duits uitdrukten in de streek van de Elzas. In de 15e, 16e eeuw was een van de bestsellers van de Duitse literatuur een boek geschreven in de Elzas. Tijdens de revolutie van Frankrijk werd de Franse revolutie in de Elzas gestreden, niet in het Frans, maar in het Duits. En ook nog in de 19e eeuw zijn er heel wat literaire werken verschenen in dialecten uit de Elzas.
Lass mal hunkeg, wenn wir wohnt ob Seda werden, Borias ja, wir mörden hoden Wind. Ich sag, wo waren Armia von Seeren, ein Olaus Meische, ja, ein Schepperskind.
Ein Olaus Meische, ja, ein Schepperskind.
So hung da gsa, dass er war vor dem Esput, ich wurde tun, auf Wehre sind auf Nür. So da me boot al echte kwam te roeien, en dan me alle twee boord aan boord zin.
En dan me alle twee boord aan boord zin. Rechtet ze keek op me matrozen kleren, ze zei dag jong, waarom kom je hier mee? Wel mis me kijk, het wat van nijpen heven.
Zie de matroos, die wordt me mast en zeel.
Zie de matroos, die wordt me mast en zeel. Zie matroos, antwoord die Hollands meisje.
En die wordt me hoe bezeelde mast. Maak als een boenen en dus een bootje zwaren waar van past. Zo om te spelen, ik ken op zee de sprongen.
kan ik klem in de getarden maas.
Ik kan ik klem in de getarden maas.
De grote wind en de vrede dan de slagen. Was muzen maas, drie keer is neer en vol. Zoals ze zei, matroos jaksie zo benauwd. En die onweer heeft alles plat en schroom.
En die onweer heeft alles plat en schroom. Zie zo verschrik, zeg me die oorlogs meisje. Op meer gerust, toen brengen we dat land.
Geef een tegje, als je een oranje roze. Ja, mijn hoog, die stuivers held op dan. Ja, mijn hoog, die stuivers held op dan. De Neptunus en ballen, totdat we kwamen voor de oogenden. Nu was de toon, maar kras en hoevoren. Op zoet plezier van een vliegende fortuin. Op zoet plezier van een vliegende fortuin.
Radio Uilenspiegel, de stem van Vlaanderen, kan u beluisteren op 91.8, ook via internet. U luistert nog altijd naar de uitzending van de Michiel de Zwaniging, Vlaanderen in Europa. We hebben nu heel interessante onderwerpen behandeld, zowel Duinkerken als de Elzas. En ik geef nu graag het woord aan Frederik om dit alles wat te commentariëren. Frederik?
Je retiens de, surtout de ce qui vient d'être dit, ce que l'on pourrait, mutatis mutandis, n'est-ce pas, appliquer à notre région, à notre pays ici. En particulier, j'admire la situation alsacienne qui permet de rassembler dialectes et langues standards sous la même appellation administrative, en tout cas au début. Hein. Je veux dire, après, dans son domaine d'application, c'est un peu différent, mais au niveau de la définition, ça semble être ça. Et malheureusement, je pense que ça n'est pas le cas chez nous, et c'est très dommage, puisqu'il y a les tenants purs et durs du Vlaamsch, n'est-ce pas, qui veulent faire exister cette langue de manière séparée, de manière parallèle, il est vrai, ils reconnaissent que c'est quand même la même famille, c'est la porte à côté, mais ils disent également, non, ça n'a rien à voir, et quand vous parlez flamand, vous ne pouvez pas comprendre, enfin les Néerlandais ne peuvent pas comprendre le flamand, etc., etc. On peut arriver à de telles positions extrêmes. Ça me paraît totalement faux. Je retiens aussi que de l'intervention alsacienne que le dialecte a émergé, en quelque sorte, il s'est connaître et reconnaître au cours du 19e siècle. Et ça, c'est très important, parce que ici, nous avons un cas particulier qui est que les gens, évidemment, sont des Flamands. Et donc, ils disent toujours, nous parlons flamand, par opposition à parler français. Or, quand on regarde les archives ici, les archives du XVIIe et XVIIIe siècle, oui, par exemple, on voit bien que c'est du Nederlandisch, c'est du Niederdeutsch ou Nederlandisch. Ça n'est pas du tout du flamand. Il y a donc une espèce de, je vais jusqu'à prononcer le terme peut-être pas d'escroquerie, mais de tromperie, hein, en disant aux gens, si vous êtes flamand, vous devez parler le flamand, et le flamand c'est le dialecte, point. C'est faux. Lorsque, au début, il faut se rappeler que du côté belge, par exemple, la langue n'a été reconnue que très tardivement, bon, de manière officielle dans les années 20 et 30, au niveau universitaire et autres, et qu'il se publiait des ouvrages de l'autre côté de la frontière, des méthodes d'apprentissage flamand, n'est-ce pas, de la langue flamande, mais ce que eux appelaient la langue flamande, c'était simplement le néerlandais parlé par les flamands, donc c'est du sud-néerlandais. J'ai beaucoup d'ouvrages de ce type à la maison, et il est marqué sur la couverture « méthode de flamand », et quand on ouvre le livre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en fait de la langue littéraire. Elle est un petit peu adaptée, il y a des variantes orthographiques, des choses comme ça, surtout qu'à l'époque ça n'était pas totalement unifié, uniformisé. Mais quand les gens disent flamand, en fait, de l'époque, quand cela vient au niveau de l'écriture, c'est bien de la langue standardisée, normalisée. Le dialecte, je le répète, c'est quelque chose qui était parlé. Mais sauf de très rares tentatives pour des poèmes, des comptines, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est typique que ces tentatives d'écriture du dialecte se soient manifestées pour ce genre de texte, parce que ça confirme bien que le dialecte est en fait un instrument local de langue de communion, n'est-ce pas, et pas de grande communication. Sans que le terme soit péjoratif, c'est une langue de petite communication, communication locale, par opposition à la langue standardisée, qui, elle, est une langue de grande communication. Ensuite, si vous voulez apprendre des choses, eh bien, ici, puisque la question qui était posée aux collègues alsaciens, c'était quelle est la motivation des parents, n'est-ce pas, qui va les faire choisir pour l'allemand plutôt que pour le dialecte alsacien. Eh bien, le sens pratique, common sense, le sens pratique, c'est-à-dire que si vous voulez vous développer, apprendre des choses, il y a des livres, des manuels, dans la langue littéraire, dans la langue standard. Pour nous, c'est le néerlandais, pour eux, c'est l'allemand. Mais à part les quelques méthodes qui ont été, et je ne le dis pas du tout de manière méprisante, mais qui ont été bidouillées localement, qui sont des tentatives qui sont émouvantes même, on peut les trouver intéressantes, émouvantes, et elles ont le mérite d'exister, mais ce sont des tentatives locales qui n'ont pas d'avenir. Je veux dire, elles ont un avenir local, elles servent à fixer quelque chose, mais on ne peut pas les prendre comme référence, puisque pourquoi apprendre le dialecte flamand de Dunkerque et pas celui de Hasbrouck ou de Bayeul, etc. C'est absurde, puisque la prononciation change au niveau des villages, n'est-ce pas, et parfois même le vocabulaire, etc. Donc, je retiens ceci en conclusion. Les deux niveaux existent, n'est-ce pas? Je n'ai aucune animosité à l'encontre du flamand dialectal. Je reconnais que c'est très savoureux, n'est-ce pas? C'est très touchant d'entendre des gens parler flamand, surtout que ceux pour lesquels c'est la langue naturelle. Je pense en particulier à ceux du monde rural, n'est-ce pas? Alors ensuite, vouloir recréer une langue flamande, n'est-ce pas, artificielle comme ça, comme ce qui est en train de se produire, selon les lubies, parce que je dis bien les lubies de tel ou tel professeur qui décrète que ça doit s'écrire comme ça et pas autrement, avec toujours comme motivation de faire le plus différent possible. Il faut absolument que le flamand se différencie au maximum du néerlandais. Mais c'est une absurdité complète. Et je pense que moi-même, pour avoir vécu, je crois, 17 ou 18 ans en Alsace, je retrouve exactement la situation de l'Alsacien. Pas tout à fait quand même, parce que les collègues alsaciens ont beaucoup, beaucoup plus de chances que nous, ne serait-ce que parce qu'ils sont plus nombreux, n'est-ce pas? Le rapport, c'est pratiquement de combien c'est au même. Il fut un temps, on parlait de 150 000 locuteurs dans l'arrondissement de Dunkerque, ça me paraît aujourd'hui très exagéré, mais on parlait à l'époque d'1 500 000 Alsaciens. Donc vous voyez, le rapport de force est tout à fait différent et joue bien sûr en leur faveur. Voilà ce que donc j'ai retenu, que l'on peut absolument comparer malgré tout nos deux situations, et cela m'amène à introduire une question future, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas, je l'ai compris déjà de par nos conversations privées, hors antenne, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de formaliser cette communauté de langues germaniques en France, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'alsacien, le lorrain et puis le flamand néerlandais. Pour ne fâcher personne, j'utilise la double dénomination, n'est-ce pas, flamand néerlandais. Voilà. Point d'interrogation, qu'en pensent nos collègues alsaciens d'essayer de concrétiser un petit peu une communauté de langage?
We gaan eerst het woord geven aan Henri, alstublieft. Ja.
Frederik Planke heeft zijn eigen mening gegeven over wat hij de laatste twee uur aan deze interviewtafel gehoord heeft. En hij is zeer tevreden, ik zou zelfs durven zeggen gelukkig, met het feit dat hij gehoord heeft, net zoals we allen, dat in de Elzas het blijkbaar mogelijk is hetzelfde statuut tegelijkertijd toe te kennen aan het Duits en aan de lokale dialecten. Hij vreest een beetje dat dat voor het Vlaams helemaal niet het geval is hier in Noord-Frankrijk. Maar niet alleen in Noord-Frankrijk, want hij heeft ons even herinnerd, dat weet u allemaal, dat wij een soort van standaard-Nederlands hebben, Noord-Nederlands, Zuid-Nederlands. Elke provincie heeft wel min of meer zijn streektaal en elk dorp heeft zijn eigen dialect. En sommige mensen, ook hier in Noord-Frankrijk, die doen iets liever dan de promotie van hun eigen kleine, bekrompen dialect. En dat willen uitdragen, ook buiten hun eigen dorp, waar Frederik Panko onmiddellijk van zal zeggen, wat in onze eigen groep gebeurt, dat is heel normaal. Dat vindt hij heel positief. Maar je moet niet proberen een bepaald dialect op te leggen aan de streek rondom je en zeker niet aan het hele Vlaamse of Nederlandstalige gebied. Naar het einde toe heeft hij ook een zeer concrete vraag gesteld. Kijk, zou het nu niet mogelijk zijn dat we met de Elzassers hier aan tafel, maar ook in grotere verbanden, een soort van algemene beginselverklaring uitdenken, waarin dat we zouden zeggen van, er is toch wel iets vergelijkbaars tussen de situatie van het Duits en zijn dialecten in Elzas, Lotharingen en de Moezelstreek aan de ene kant, en dat Vlaams-Nederlands hier in Noord-Frankrijk. Dat is misschien hetgeen waar we het laatste uur aan kunnen wijden.
Somber genoeg voor haar en hem, voor jou en voor mij. Komt liefde nooit te vroeg? Je weet, geluk is er voor iedereen. Vergeet al die zorgen en voel je weer vrij. Denk niet dat het nooit meer wordt als voorheen. Problemen gaan ook voorbij. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Je gaat door het leven met vallen. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Niemand ontsnapt aan een lach en een traan. Van tegenslagen is niemand vrij. Maar vroeg of laat komt het weer goed. Want na het wachten keert het getij. Geluk komt na tegenspoed. Als vrienden je vragen hoe het nu met je gaat, dan zeg je dat niet. Een eeuwigheid duurt, die woorden zijn al lang uitgepraat. Problemen zijn weggestuurd. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Je gaat door het leven met vallen en opstaan. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Niemand ontsnapt aan een lach en een traan. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Je gaat door het leven.
Spiegel, de stem van Vlaanderen, te beluisteren op 91.8 en ook via internet www.uilenspiegel.eu. Nog steeds aan het woord Michiel de Zwaankring met de uitzending Vlaanderen in Europa. U kon nogmaals mijn dorpsgenoot horen en die een heel goede stem heeft, daar ben ik heel fier op. Je répète maintenant la question que Frédéric a posée et je vais la poser à je ne sais pas qui, à Patrick. Pourquoi ne pas formaliser une entente, une association de langues germaniques en France? Patrick.
Oui, merci de me poser cette question. Je crois effectivement que c'est une démarche à laquelle nous avons pensé. Nous pensons que les langues germaniques sont insuffisamment prises en compte, notamment dans le cadre des langues régionales, et que nous n'avons pas, je dirais, les possibilités que nous souhaitons. C'est un peu vrai pour l'Alsace, il y a 20% d'écoles bilingues, simplement une seule partie, donc on a environ 15-20% des élèves dans l'enseignement bilingue. En Moselle, ils en ont 3 écoles bilingues, donc ça fait quelques centaines d'enfants avec le milieu associatif. Vous n'en avez aucune. Et nous avons des problématiques communes. Alors des problématiques économiques, on l'a dit avant, on a des problématiques économiques, une problématique culturelle, et nous avons dans les deux cas, même si tout le monde de part et d'autre ne le reconnaît pas, une langue standard qui est en même temps la langue de pays voisins. Alors pour vous, pour nous, c'est l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg aussi. Pour vous, ce sont les Pays-Bas. La Belgique, où on parle flamand, mais où on écrit en flamand littéraire, c'est-à-dire en néerlandais, donc des problématiques tout à fait communes au plan linguistique. Nous avons aussi d'autres problématiques, une dimension européenne, c'est-à-dire que lorsque nous enseignons l'allemand littéraire, l'alsacien littéraire, qui est l'allemand, lorsque nous enseignons le néerlandais, en néerlandais, qui est aussi le flamand littéraire en Belgique, je dirais quelque part, on a une démarche européenne, c'est-à-dire on ne s'isole pas, mais on s'ouvre à des pays européens, quelque part on fait un pas vers l'Europe, on ouvre des portes, et en plus on peut inscrire ça dans des cursus germaniques, pour vous déboucher vers l'allemand, déboucher vers l'anglais, et chez nous aussi déboucher vers l'anglais, déboucher vers le néerlandais dans l'enseignement avec une LV3. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'autre part, je l'ai expliqué tout à l'heure, les langues régionales dans l'enseignement, particulièrement au collège et en lycée, mais aussi dans le primaire, s'ajoutent aux langues étrangères. Ce n'est pas le cas chez nous, et il y a de la place pour faire quelque chose de beaucoup plus important, aussi bien en Alsace que chez vous, pour ça. Donc je crois que nous pouvons essayer de créer ensemble une entente, de travailler et de fonctionner ensemble pour voir ce qui nous réunit, comment on peut présenter des projets, et je dirais ne pas laisser à d'autres qui n'ont pas nécessairement les compétences, la connaissance, la maîtrise du sujet, porter ce sujet de manière à aboutir à un projet, je dirais, peut-être non pas commun, mais identique. Et je dirais, peut-être quelque part, nous pourrons favoriser l'apprentissage du néerlandais un jour en Alsace, et vous de l'allemand, de l'anglais. Et il y a quelque chose de fantastique à faire. Je crois que c'est la démarche dans laquelle nous sommes, et je pense que demain, au plan national, les langues germaniques de France doivent avoir une représentation.
Je vais demander maintenant à Henri de faire la traduction, mais je tiens quand même à dire que dans l'enseignement en Flandre belge, où la langue maternelle est bien sûr le néerlandais, quelqu'un qui fait bien ses études, qui quitte l'enseignement à 18 ans, il parle néerlandais, français, anglais et un peu d'allemand. Donc ça, c'est l'avenir, donc les gens soient des polyglottes, quoi. Ça, c'est l'Europe. Henri.
Patrick Kleinklaus heeft inderdaad geëindigd met te zeggen dat wat wij doen eigenlijk ook de deuren openzetten is naar Europa. En vandaar dat Karel Appelmans meteen zegt dat de situatie in Belgisch Vlaanderen inderdaad zo is dat bijna alle kinderen vanaf 18 jaar, als ze een normale schoolloopbaan hebben gehad, niet alleen Nederlands, Vlaams, maar ook Frans, Engels en zelfs een mondje Duits mee hebben. En dat is een beetje waar we voor onze Noord-Franse, en dan bedoel ik Noord-Frans heel, heel breed, van Duinkerke tot in Straatsburg, waar we nu voor aan het pleiten zijn. We zouden op zoek moeten gaan naar een samenwerkingsverband tussen Alsace, tussen de Moezelstreek, tussen Le Nord-Pas-de-Calais, het noorden van Frankrijk, waarin dat we eigenlijk de Germaanse talen samen zouden trachten te stimuleren in het hele noordelijke gebied van Frankrijk. We hebben allemaal hier aan tafel begrepen dat eigenlijk de motiveringen net dezelfde zijn. Linguistisch, economisch, cultureel. Het zijn dezelfde redenen waarom in Elzas Duits zou moeten geleerd worden, nog meer dan nu, en waarop dat in Noord-Frankrijk er steeds meer Nederlands zou moeten geleerd worden. We hebben ook gemerkt dat zelfs als we de cultuurgeschiedenis van onze streken met elkaar vergelijken, dat er ook heel wat vergelijkingspunten zijn. Vandaar, waarom zouden we niet blijven samenwerken? Waarom zou er niet een soort van samenwerkingsverband ontstaan, zodat wij ervoor zouden kunnen zorgen dat hier in Noord-Frankrijk er meer gewicht kan komen voor het Vlaams-Nederlands aan de ene kant, maar dat er zelfs een soort van kruisbestuiving zou zijn. Meer Nederlands in het onderwijs van Elzas en de Moezelstreek. En meer Duits in het onderwijs hier in Noord-Frankrijk. En waarom niet ook wat culturele, literaire referenties naar typisch streek producten uit Elzas of de Moezelstreek.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, berken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keil is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordenwind er onze adem steekt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben leeft, of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
soms. Als zij op wortels denken en tergen met een schop, dan richt hij zich bedreigend en vreselijk voor hem op.
Spiegel, de stem van Vlaanderen, kan u beluisteren op 91.8, ook via internet www.uilenspiegel.eu. U bent nog steeds op de uitzending van de Michiel de Zwaankring, Vlaanderen in Europa. Henri, quels sont les motifs? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour choisir pour le néerlandais?
Je constate autour de moi que de plus en plus de Français du Nord se rendent compte qu'il y a différents facteurs qui explique pourquoi ce serait quasiment indispensable d'avoir au moins les rudiments du néerlandais quand on vit dans le nord de la France. Tout d'abord, je vais vous donner certains chiffres d'emploi. Dans le nord de France, il y a un chômage d'au moins 13%. En Flandre, juste passé la frontière, à 20 km d'ici, c'est 6%. Il y a donc des places à prendre pour les Français du Nord. Deuxièmement, pensons aux exportations. Je constate, et les chiffres que je livre, vous pouvez les contrôler, scientifiquement incontournables. Le premier partenaire commercial de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est le Benelux. Le plus de produits exportés de notre région, c'est vers la Flandre belge, les Pays-Bas et l'ensemble du Benelux, où quand même deux tiers des personnes ont le néerlandais comme première langue. Emploi, exportation, troisièmement, le tourisme. Le tourisme, il y a énormément de Flamands, de Néerlandais, qui aimerait bien venir passer plus de nuitées dans le nord Pas-de-Calais, sur le littoral, dans des villes merveilleuses comme Lille, Bailleul, etc. Mais ma collègue vient de me dire à table, on va dans une boulangerie en Alsace, mais ici c'est sans doute la même chose, on demande un pain et on dit, madame, ici on parle français. Dans un hôtel, dans un restaurant, les Flamands, les Néerlandais veulent venir acheter les services de votre beau pays. Mais si vous ne leur dites même pas bonjour, vous êtes les bienvenus en néerlandais. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils auront envie de venir? Quatrièmement, et c'est peut-être qu'une partie de notre région, mais l'aspect portuaire, Dunkerque, Calais, Boulogne, etc., de grands ports du nord de la France, mais qui travaillent déjà beaucoup avec Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, des ports néerlandophones. Et du côté néerlandophone, on a quand même développé un savoir énorme en matière d'affaires portuaires. Non seulement le commerce portuaire, mais également les façons de fortifier nos ports. Il faut penser peut-être à plus long terme, avec le réchauffement de la planète, avec le niveau de la mer qui pourrait éventuellement augmenter, monter. Vous savez tous que les Pays-Bas sont maîtres dans la construction de digues. Cinquièmement, il y a des pans entiers de la culture au sens large, très très riches actuellement en Flandre belge et aux Pays-Bas. Je pense à l'architecture, la mode, la danse. Je sais, en France aussi, on est très très fort, on est à la pointe, à l'avant-garde. Mais n'oubliez pas que, au nord de notre région, il y a aussi de grands artistes qui peuvent nous apporter. Je sais d'ailleurs qu'il y a des troupes théâtrales qui travaillent ensemble des deux côtés de la frontière. Je voudrais en voir de plus en plus.
Merci, Henri. Merci, Henri. Patrick.
Oui, si nous sommes venus ici, c'est aussi parce que nous sommes très, très inquiets. J'ai dit tout à l'heure à quel point la langue était importante pour les contacts avec les pays voisins germanophones, pour l'économie, pour l'emploi. Autrefois, nous étions la région la plus prospère de France avec un taux de chômage dérisoire. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait français sur ce terrain-là. Nous sommes dans la moyenne nationale alors que nos voisins n'ont pratiquement pas de chômage et même font venir des centaines, des milliers de frontaliers ou de personnes pour assurer le fonctionnement. Alors, il y a eu il y a quelque temps en Alsace le renouvellement des conventions entre la région, les deux départements et l'État, éducation nationale, pour le développement de l'enseignement de l'allemand en tant que langue régionale. Et je dois dire que, pour tous ceux qui sont autour de la table, la lecture de ce texte a déçu toutes les associations et nous inquiète énormément. Visiblement, les associations n'ont pas été entendues et ce texte va organiser une régression qualitative, va freiner le développement dans le segment bilingue, va empêcher que peut-être que demain nos enfants aient de l'emploi, que la région retrouve tout son dynamisme économique. Et je crois que quelque part, on a peur de se retrouver un petit peu à votre niveau. Donc, c'est pour ça qu'avec les Mosellans, avec vous, on pense qu'il faut vraiment porter la parole. Ce n'est pas la même problématique que les autres langues régionales. Ce sont des langues à la fois culturelles, économiques et européennes. Et je crois qu'il faut empêcher que, quelque part, par méconnaissance du sujet, parce qu'on est allé trop vite, parce que on ne sait pas discuter, je dirais, on régresse. Ici, vous stagnez, et ailleurs, chez nous, on régresse.
Merci, Patrick. Henri.
Het is misschien wel spijtig, maar aan het einde van deze uitzending toch ook een alarmbelletje. Tot hiertoe hadden we de indruk dat in de Elzas, dat in de Moezelstreek, dat kortbij Duitsland de dingen een stuk beter geëvolueerd waren dan bij ons hier in het noorden van Frankrijk. Maar in naam van de drie mensen uit de Duitsstalige Franse regio's hebben we net gehoord dat de hervormingen in het onderwijs in Frankrijk eigenlijk negatieve berichten geven in verband met het statuut van het Duits. En dan praten we nog niet echt over de dialecten van Noordoost-Frankrijk. Maar als het zo verder gaat, gewoon omdat bepaalde mensen in Parijs, niet helemaal begrijpen wat de situatie is. Dat er bepaalde situaties moeten veranderen. Dat we naar een positieve evolutie moeten voor de toekomst, economisch en cultureel. Ook in het noorden van Frankrijk, van Duinkerke tot Straatsburg, schijnt men toch een klein beetje nog steeds te trachten, opnieuw te trachten, het Frans alleen zaligmakend te houden. Misschien met één vreemde taal, het Engels, maar het Duits, het Nederlands, moet daar niet nog meer voor geijverd worden in de toekomst.
Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw: Vlaanderen de Leeuw. Dan breidelen de koning met elk een goede dag. En Gwijde van Dampierre van achter met de vlag. Ginder op zijn paard zit Jacques de Châtillon. Hij lacht, hij is gelukkig en zingt van C'est si bon. En plots weer klinkt de schreeuw: Vlaanderen de Leeuw. De miserie gaat beginnen, er klinkt pas een geschal. Franse ridders stormen, het Vlaamse heer staat pal. Het klettert daar een tijdje, de kansen zijn verdeeld. We hebben wel gewonnen, maar het heeft niet veel gescheeld. En plots weer klinkt de schreeuw: Vlaanderen de Leeuw. Daar liggen nu de Fransen, verzopen in het moeras. En duizend gulden sporen, ze blinken in het gras. Kom Breidel, zegt de koning, en trekt hem aan zijn buis. Als we ons wat haasten, zijn we voor het eten thuis. En plots weer klinkt de schreeuw: Vlaanderen de Leeuw. En Gwijde van Dampierre zucht met een grote geeuw. Wat een hoop ellende voor Vlaanderen de
Leeuw. Radio Uilenspiegel, de stem van Vlaanderen. Het gaat er hier nogal geanimeerd aan toe. Hè. Je moet nou bezig zijn. Het is hier heel gezellig. Ja, ik zei dus Radio Uilenspiegel, 91.8, ook via internet. De uitzending van de Michiel de Zwaankring Vlaanderen in Europa. Henri, nog een kleine vertaling van je tekst die je daar gezegd hebt straks, alstublieft.
Ja, ik heb een vijftal minuten geleden in het Frans uitgelegd welke de beweegredenen zijn waarom dat hier in Noord-Frankrijk en dan meer specifiek in dit departement, het noorden van Frankrijk, of de streek Nord-Pas-de-Calais, die Nord-Pas-de-Calais Picardie zal worden over een paar maanden, waarom dat men hier toch eigenlijk alle voordeel zou hebben bij het leren van het Nederlands. Mijn eerste argument heeft te maken met werkgelegenheid. U weet dat misschien niet, maar er is een hoog werkloosheidscijfer hier in het noorden van Frankrijk. Ten tweede, voor Noord-Frankrijk is de Benelux echt wel de allereerste exportpartner. Wij zijn de grootste klanten van Noord-Frankrijk. Ten derde, het toerisme. Het is toch evident dat u, wanneer u als Nederlandstalige naar het noorden van Frankrijk komt, dat u het recht heeft om tenminste begroet te worden in het Nederlands wanneer u in een hotel binnenstapt. Ten vierde, vooral in het westen van Noord-Frankrijk zijn er grote havens, Duinkerke, Calais, Boulogne, noem maar op. Maar we hebben toch heel veel te leren en we kunnen toch zo goed samenwerken met Antwerpen, met Rotterdam, met de andere Nederlandstalige havens. En ten vijfde heb ik nog even de lans gestoken voor de cultuur die er toch ook bestaat in het Nederlandstalig gebied. Op domeinen of in domeinen die ook in Frankrijk wel heel, heel sterk zijn. Maar de architectuur, de mode, de moderne dans die wij in Vlaanderen en in Nederland brengen, die mag toch ook bekend zijn in Noord-Frankrijk en verder buiten.
Ik wil nog iets vermelden. De spoorwegen. Vroeger was er een verbinding Duinkerke-De Panne. Dus ik weet nog steeds niet waarom die werd onderbroken. Donc il y a quelques décennies, donc il y avait la liaison par le chemin de fer de Dunkerque à La Panne. Nous ne comprenons pas pourquoi cette ligne a été supprimée. Donc tout ça, pour moi, c'est du sabotage envers la Flandre. Radio Eilenspiegel, de stem van Vlaanderen. Onze uitzending gaat stilaan naar het einde toe. Notre émission se termine bientôt. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités de l'Alsace, Madame Monique Matter, Patrick Lang-Klaus et Frans Schaffner. Je tiens à remercier, ik bedank van harte Henri en Frederik, Henri Vazen, pardon. Frederik Blanke, moet hoffelijk blijven. Hè. De techniek, Marie-Jo, die onmisbaar is. On ne sait pas faire l'émission sans Marie-Jo, donc ça c'est important. Et alors, le président du cercle, Michel de Zwaan, Michel Lieven. Michel.
Oui.
Donc, je pense qu'on a eu une émission fructueuse, avec de bonnes nouvelles, avec beaucoup d'informations. Et je voudrais dire quand même pour ceux qui ont pris l'antenne de Radio Eilenspiegel un peu tardif que notre émission pourrait être écoutée sur Facebook à partir de lundi. On va également essayer de le mettre sur le site de Cercle Michel de Zwaan avec l'aide de Tijl Walput qui habite aux alentours de Jabeke. Donc, je remercie tout le monde et maintenant, j'ai encore quelques activités à annoncer. 18 juli is er een Zuid-Afrikaanse dag die doorgaat in Kortesem, in het Kokima-kasteel, kasteelstraat 16. Dus daar is de ganse dag van 11 uur tot 's avonds, is er Afrikaanse muziek, Afrikaans eten, Afrikaanse sfeer. Dus met optredens van Bok van Blerk, Willem Bota, Rihanna Nel en Lea. Dus ik zou zeggen, allen daarheen. Via internet kan je nog altijd kaarten bestellen. Dus dat is heel belangrijk. Dan op 19 juli in Ruurbroek. Van 10 tot 19 uur is er het Mongoolse feest, dat heet Nadam. Dus daar is, dat is echt een aanrader, dus want daar kun je dus getuige zijn van drie sporten die door de Mongolen worden beoefend. Dat is ten eerste worstelen, ik ga zeker niet meedoen. Dan is er boogschieten en eigenlijk was er voorzien paardenrennen, maar dat wordt dus vervangen door een wedstrijd tussen gespannen, het mennen van paarden. Donc, je répète, donc, le 18 juillet, il y a une fête de l'Afrique du Sud à Côte-Saint-Provence-de-Limbourg, Castelstraat 16, Coquima Castel, donc de musique de l'Afrique du Sud, à manger suivant, des coutumes de l'Afrique du Sud, l'ambiance. Il y a des chanteurs qui viennent spécialement de l'Afrique du Sud, Bok van Blerk, Willem Botin, Rian Anel, Léa. Le 19 juillet, à Ruurbroek, de 10 à 19 heures, il y a une fête mongole, puisque Ruurbroek est jumelée avec Mongolie, grâce à Guillaume de Ruurbroek. Donc on pourrait donc assister à des combats. Donc,
j'en profite d'ailleurs, il y a une émission le 14 juillet à 19 heures sur Radio Spiegel pour justement l'histoire de Guillaume de Ruurbroek. Hein. Ah. C'est donc le 14 juillet à 19 heures.
À 19h, ok. Donc, à Ruurbroek, on pourrait donc assister à la lutte, le tir à l'arc et course de chevaux. Donc, le soir, il y a une musique traditionnelle. Le groupe s'appelle Uria. Et alors, pour ceux qui ont faim et qui n'ont pas faim, donc, on pourrait manger des frites et autres bonnes choses chez Patricia, het Huis van de Metzenaar. Donc, on a mis là une plaque Evo. Donc, et elle parle même un peu le Vlaams. Donc, à son café, estaminé, il y a un beau lion flamand qui flotte là, jour et nuit, bien éclairé. Donc, 19 juillet, Ruurbroek. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, encore autre chose. Donc, si vous y allez, avec, il y a des gens qui viennent donc de Mongolie, et nous aurons l'occasion de parler avec eux, parce que les Mongols viennent d'Anvers. Donc, ils parlent néerlandais. Un petit d'information, hein. Okay.